C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Ventus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Son automne?
Ok.
Lunettes?
Ok. Question édito?
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Des collages immédiats pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 22 mars et il est 8h30. Arthur est à la technique, bonjour Arthur.
Bonjour à vous.
Et aujourd'hui tu nous as ramené un petit reportage au programme de cette matinale, le printemps est là, c'est un plaisir de l'accueillir. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Comme tous les ans, les 48 heures de la BD à Saint-Enimi reviennent en amont du festival Enimi BD qui lui aura lieu au début de l'été. On parle de ce qui va se passer le premier week-end d'avril dans cette jolie petite bourgade. Dans un instant, juste après l'édito et en deuxième partie d'émission, je viens de l'aborder, notre caution de gauche ici à la radio. Arthur, tu es était sur les ronds-points et autres manifs ici à Florac et tu nous en as fait un reportage. Il y a un peu de colère en ce moment, non?
Oui, il y a pas mal de colère. Moi, je vous en parlerai en fin
avec plaisir. Ce sera en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab et aujourd'hui une jolie découverte. Elle s'appelle Sona Jobarté, une artiste d'origine gambienne. J'ai adoré, vraiment, c'est absolument trop cool. Et un morceau de dernière minute, n'est-ce pas Arthur?
Mm-hmm.
Qui a un lien en fait avec le reportage.
Oui.
On écoutera ça en fin d'émission. Eh ben voilà, c'est parti, on est bien sur Bartas et on y va pour l'édito.
Mettre en désaccord. Bon, enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là.
Ce n'est que l'édito des Bartas. Les aléas du direct, mon Arthur. Suis-je inspiré ce matin? Bof, c'est pas trop la question. Est-ce qu'on a le moral? Bof, on a quand même une sacrée gueule de bois. Bon, on en est où après ce manque de 9 voix à l'Assemblée pour renverser le gouvernement? Bien, le Conseil constitutionnel a été saisi et ce serait vraiment trop long pour vous expliquer pourquoi certains des articles de la loi sur les retraites sont anticonstitutionnels. Mais je vous mets plusieurs liens sur notre site dans un instant qui l'expliquent très bien. Alors l'étape suivante, il va y avoir une proposition de loi sur le RIP, le référendum d'initiative partagée, et elle a été déposée par 250 parlementaires. Si elle est acceptée, cette proposition devra être soutenue par un dixième des électeurs, soit 4,87 millions de personnes. Les signatures devront être recueillies dans un délai de 9 mois. C'est une proposition de loi qui annule celle du gouvernement, a indiqué le député du Parti communiste de Seine-Saint-Denis, premier à avoir évoqué cette voie d'opposition à la réforme. Si le seuil des électeurs est atteint, le Conseil constitutionnel rendra une décision dans ce sens et le texte sera ensuite soumis à un référendum. Mais est-ce que le gouvernement va l'accepter alors qu'il a déjà refusé que l'Assemblée nationale vote le texte? 70% des Français sont contre la réforme. Est-ce que cette fois-ci, les politiques vont faire confiance aux sondages, ces mêmes sondages dont ils disent qu'on leur fait faire dire ce qu'on veut? Bon, il faudra suivre avec attention ce qui va se passer, mais en tout cas, si référendum il y a, on peut être sûr d'une chose, il n'aura pas lieu avant au moins un an. D'ici là, on peut donc être quasiment sûr que la rue ne va pas se calmer. Au contraire. Allez, dans un instant, on parle de bande dessinée, une bonne bulle d'air, ça va faire du bien. On écoute d'abord Sona Jobarté, le morceau s'appelle Musao. Sona Jobarté, Musao, de retour en plateau avec Philippe. Le premier week-end d'avril à Saint-Enimi, c'est le retour des 48 heures de la BD. On va en parler. Mais d'abord, d'où est né, allez, n'ayons pas peur des mots, cet amour entre toi, vous et Saint-Enimi et la BD?
Oh, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un petit lieu médiéval où des passionnés de ce genre se sont mis à organiser des temps festifs. Et dans ces temps festifs, l'image prenait sa place. Certains étaient passionnés de BD et se sont dit que finalement, à côté des combats, des spectacles et autres danses, il y avait peut-être la place aussi pour de la BD. Et donc c'est parti de là. C'était dans les années 2007. Donc il y a déjà une quinzaine d'années, bon poids. On sera à la 16e édition en 2023. Et voilà.
Une histoire d'amour qui dure donc. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord le concept des 48 heures de la BD ?
Concept important puisque c'est d'abord et avant tout une idée de prix. Alors le prix a un peu évolué puisque depuis l'origine c'était à 2 euros, ça vient de basculer d'un coup là à 3 euros, aïe. Mais ça reste quand même donc un prix très attractif pour permettre au grand public, à tout le monde, petits, enfants ou grands qui veulent découvrir la BD et ses différents genres, d'y accéder facilement. Une quinzaine d'éditeurs européens se mettent dans la boucle, autorisent donc en conséquence un prix cassé, seulement pendant 48 heures, c'est pour ça qu'on les appelle les 48 heures de la BD, et permettent donc de diffuser assez largement sur l'ensemble du territoire français, à partir du moment où il y a des relais locaux, ce type de possibilités d'accès à un prix bas.
Alors, quand on s'est eu au téléphone hier, tu m'as dit « aïe, 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 compliqué de venir ce matin », mais tu es là, merci beaucoup. C'était pas évident, puisque avec tes collègues, il y a une installation de prévue à Saint-Enimi, raconte-nous tout.
Oui, inévitablement, Saint-Enimi redémarre, hein, c'est le printemps, alors ça redémarre sur les rues, sur les routes, hein, je crois qu'Arthur en parlera tout à l'heure. Nous, on essaye de laisser notre trace aussi, à notre façon. En l'occurrence, on va mettre en place un parcours dessiné, comme chaque année, avec donc des illustrations que nous offrent les auteurs qui passent par là à l'occasion du festival, qu'on a installées sous forme de grands panneaux et qui permettent de traverser depuis la rivière jusqu'en haut du village. Le parcours de la cité médiévale, mais avec un regard et un clin d'œil souvent un peu humoristique que le dessin artistique permet. Quoi.
Elle restera en place jusqu'au festival.
Oui, c'est une installation saisonnière, volontairement. Elle démarre là à l'occasion des 48 heures et elle va même au-delà du festival puisqu'on a maintenant un troisième événement à l'automne qui s'appelle À la source d'Enimi et qui nous permet de faire la relation avec l'histoire du village et sur lequel, bien sûr, les panneaux seront présents également.
Alors, les 48 heures, ça commence le vendredi 31 mars et vous recevez, ce n'est pas rien, Emmanuel Nieux, qui n'est autre que l'illustrateur qui a créé les graphismes de la campagne nationale des 48 heures cette année quand même.
Eh oui, une petite relation privilégiée avec les 48 heures, c'est notre cinquième contribution. Donc effectivement, on a établi des liens et parmi ces liens, l'idée c'est pas seulement se contenter de mettre les BD en vente, mais aussi provoquer une rencontre avec les publics et donc notamment les publics scolaires. Le vendredi, le 31 mars, est consacré à ça. Emmanuel sera à nos côtés pour aller sur le terrain mandois cette année, et notamment vers les adolescents, avec une intervention en lycée, au lycée Peytavin le matin, et puis une intervention en collège, au collège Bruyant l'après-midi.
Il va parler de son travail ou alors c'est vraiment un atelier qu'il va donner
Les deux. Toujours, je crois que c'est important d'avoir d'abord un premier contact, d'établir un lien avec un professionnel. Hein, pour les gens qui reçoivent, c'est quand même d'abord cet instant d'émotion. Donc ma vie, mon œuvre, hein, toujours. Et puis quelque part, quelques échanges sur le travail en cours, les planches, etc. Quelques yeux qui brillent aussi quand il prend le feutre et qu'il se met à utiliser ses personnages comme ça, là, spontanément. Mais aussi, bien sûr, un atelier, parce qu'on est sur une amplitude de 2 heures, 2 heures et demie chaque fois. L'idée, c'est bien qu'il y ait aussi du faire et de la création, et que ça donne envie peut-être parfois d'aller plus loin. Hein. C'est comme ça, souvent, qu'avec les enseignants, on crée des liens qui permettent d'aller après vers des projets.
Et pourquoi pas faire naître des vocations. Alors, on y va pour le programme, parce que il n'y aura pas que des BD et des mangas à 3 euros. Il y aura quand même pas mal de choses qui vont se passer le samedi avec un vieil habitué, Eric Hupsch.
Eh oui, Eric Hupsch est toujours là. Hein. Il fait partie de la cité médiévale, ouais, presque. Voilà. Il est donc avec une nouveauté qui s'appelle le Royal Fondement, avec son graphisme très particulier, mais qui vient souligner là la relation entre l'humour et le pouvoir, qui est particulièrement intéressante parce que finalement, ça va se passer à la période de Louis XIV. Il y a des ressemblances avec quelques monarques qui sévivent en ce moment et qui, sur son fondement, pourraient se poser les les mêmes questions. Voilà, donc un petit clin d'œil à l'actualité, peut-être un peu distant dans l'histoire, mais pas si distant que ça sur le fond des choses. Voilà, donc Eric sera là, lui, le samedi. Il sera en dédicace. Et puis aussi, on essaye de faire en sorte qu'on trouve des rendez-vous pour que les jeunes se disent à quel moment ils ont envie d'y aller plus particulièrement. Donc Eric sera en atelier l'après-midi à partir de 15h, ouvert à tous, petits ou grands. Et le matin, par contre, on fait un clin d'œil aux plus petits, dans le regard entre l'image et la voix. Et donc avec une mise en voix de textes et d'albums par Stéphanie Brio, qui est une voisine presque, puisqu'elle est là à Ispagnac, et qui a toujours cette capacité à enchanter des moments un peu sympas, un peu cosy, avec des tout-petits. Voilà, donc ça c'est un rendez-vous à 10h30 le matin, le samedi.
Stéphanie, qu'on recevra dans une quinzaine de jours, puisqu'elle organise le Gestival ici à Florac. Est-ce que les 48 heures de la BD fonctionnent aussi bien que le Festival Ennemi BD, ou est-ce qu'il y a un peu moins de monde, vu qu'on n'est pas en saison, comme on dit ?
Alors, on est volontairement sur deux événements complètement différents et qui, pour nous, se doivent d'être différents. L'un, comme je le disais tout à l'heure, est destiné à amorcer la démarche vers la BD pour ceux qui n'y sont pas, et notamment vers les nouveaux genres, on pourra en parler peut-être. Le manga trouve sa place de plus en plus. Il est donc souvent plus destiné à un public local, départemental ou régional, qui, à cette saison-là, a envie de commencer à sortir un peu, c'est le printemps. Voilà. et par contre, effectivement, le festival, lui, a sa dimension nationale et internationale, et sa place en début d'été permet justement ces déplacements un peu lointains, et donc une population parfois plus spécialisée, parfois plus curieuse aussi sur le domaine de la BD, la rencontre avec les auteurs, et donc une population souvent plus nombreuse, bien sûr.
Est-ce qu'il y aura forcément d'autres auteurs qui seront aux 48 heures de la BD quand même ou
Oui, alors on accueille indirectement à travers leurs ouvrages des auteurs locaux, comme toujours, hein, Val, Juliette Lévejac et autres, qui nous mettent à disposition leurs ouvrages pour qu'on puisse les valoriser. Mais on a mis cette année le focus sur ces deux auteurs, Emmanuel Nieux, parce qu'il a le talent de pouvoir à la fois faire du documentaire, de la fiction, du manga, du jeunesse. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les auteurs ne sont pas spécialisés, enfermés dans un genre.
Tu m'étonnes.
Ça compte beaucoup. Et puis Eric, parce que lui aussi, finalement, quand on regarde son parcours, il a un parcours très éclectique. Et donc, c'est une façon de témoigner un peu de l'évolution de ce monde de la bande dessinée, qui aujourd'hui est leader dans le monde de l'édition, hein, largement, mais qui, à l'intérieur, bouge aussi beaucoup.
Alors, tu l'as abordé. Hein. Donc, moi, j'avais formulé ma question en parlant du pass culture pour les jeunes, hein, une petite somme d'argent, voilà, et qui avait permis au marché du manga de grandir. Toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. Tu dis que c'est pas grâce au pass culture que le manga a explosé.
Non, je pense que ce qui fait d'abord l'explosion du manga, bon, c'est son accès très facile en termes de lecture. C'est quand même d'abord un graphisme très conséquent, avec du travail sur le gros plan, peu de texte, une évolution rapide dans les scénarios, des scénarios qui sont relativement simples et qu'on peut retrouver au fil de la collection. Donc des personnages qui parlent en plus au public, aux adolescents notamment. Et surtout un coût très accessible. Aujourd'hui, un manga, ça évolue entre 6 et 8 euros au plus. Et encore, ça a bien évolué vers le haut. Mais ça reste très accessible. Et puis, ça se partage. Ça circule. On en parlait, les CDI aujourd'hui, dans les collèges ou les lycées, il y a des étagères avec des mangas. Il y a 5 ans ou 10 ans de ça, on n'aurait pas pris ce risque-là, quoi.
Et puis ça peut se lire sous la table pendant les cours aussi.
Quasiment, voilà. C'est plus facile. Et puis si on se le fait choper, c'est quand même moins pire qu'un téléphone, quoi.
C'est ça. La BD, c'est grand, quoi.
Voilà, c'est ça, la BD. Bon, il faut la mettre sous la copie et c'est pas toujours facile, quoi.
Est-ce que c'est justement une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la BD que le manga explose comme ça ?
Bah, c'est toujours une bonne nouvelle, de toute façon, que le papier garde sa place. Je crois que ça, c'est ça l'essentiel. Ce contact, cette émotion qu'on a tous quand on lit un livre, un roman ou autre chose, on le retrouve aussi, bien sûr, dans le monde de la BD, et le manga fait partie de ça. Parce que, quelque part, c'est un moment où on peut être avec soi-même, avec un livre, un moment de, presque, j'allais dire, d'émotion, de recueillement à sa façon, qui n'est pas tout à fait la même chose quand on est face à une animation ou un élément vidéo. Alors, le manga a sa répercussion immédiate souvent, voire même avant dans le monde de l'image animée, bien sûr. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de constater que même si il y a une répercussion dans le monde de l'image animée, parfois d'ailleurs ça part de là et puis le manga papier arrive après, le manga papier a sa place. Et trouve bien sa place aujourd'hui, j'allais dire, dans les cartables, plus dans les sacs, ou dans les bibliothèques, ou dans les CDI. Et ça, c'est important, quoi.
Alors, on le dit quand même, la BD se porte bien. Est-ce que c'est parce qu'elle permet de s'extirper d'une réalité, disons, un peu morose ?
Alors, je pense qu'il faut nuancer. La BD, au sens global du terme, en tant que diffusion, se porte bien. Les chiffres sont conséquents. Hein. La BD est aujourd'hui effectivement ce qui tire le monde du livre. Par contre, en termes de production pour les auteurs, c'est compliqué. Parce que les éditeurs s'étant emparés de ce marché, puisque c'est devenu un marché, en fait, les auteurs sont de plus en plus mis en concurrence, pressés un peu dans le temps. On voit apparaître de plus en plus des one-shots et très peu de collections, donc peu de visibilité pour les auteurs. Ça, c'est la face cachée de cette évolution brutale quantitative de la BD. Par contre, c'est vrai que si on regarde le chiffre d'affaires global du monde de la BD, il est très en avance. Et aujourd'hui, à l'intérieur de ce chiffre d'affaires, le manga commence à trouver sa place.
Et c'est ça qui fait, en fait, on a envie de sortir de la réalité, quoi.
Oui, bah ça reste de toute façon, à partir du moment où on commence à se poser sur un livre, que ce soit un livre, une BD ou un manga, c'est vrai qu'on décolle.
On s'en va.
Voilà, on s'en va.
C'est de 10h à 18h le 1er avril, c'est ça ?
Alors on commence le matin, oui, à partir de 10h, on est en continu jusqu'à 18h, parce que ça permet à chacun de venir un petit peu quand il en a envie. Les deux rendez-vous du matin à 10h30 avec Stéphanie Briot et à 15h un atelier avec Eric Hupsch sont là pour donner un petit peu un rendez-vous pour ceux qui souhaitent se dire « tiens, j'y vais à ce moment-là » et puis j'en profite en même temps pour aller voir ce qu'il y a à côté, la librairie, les BD à 3€, etc.
Est-ce que c'est plus simple d'organiser les 48 heures de la BD que le festival Ennemi BD ?
C'est pas le même enjeu. C'est pas le même enjeu. Ça s'inscrit pour nous à un moment de l'année qui est dans notre dynamique de territoire. C'est-à-dire qu'en fait, le mois de mars, c'est souvent le moment, enfin, pour nous, à partir de l'automne et là, en hiver, on est beaucoup sur le terrain scolaire. Et donc, ça s'inscrit bien dans cette démarche-là. La preuve, c'est qu'Emmanuel Nieu donc, sera plus présent finalement sur le terrain scolaire que sur le grand public. Donc, à ce niveau-là, pour nous, c'est intéressant et c'est dans une continuité de travail. Après, en termes d'organisation face au public, c'est toujours un peu plus délicat parce qu'il faut arriver à placer dans la culture locale, le fait que c'est un rendez-vous qui est différent de celui du festival. Voilà. Le festival, aujourd'hui, est rentré dans les mœurs et dans les attentes. Les 48 heures, ça commence.
Alors justement, même si tu reviendras nous en parler dans quelques semaines, le festival Ennemi BD, c'est au début de l'été, ce sera quand ?
Alors cette année, c'est le premier week-end de juillet.
Ok, voilà. Ça reste
On est resté sur ça, parce qu'en fait, après, il y a des événements dans le département qui ont aussi leur place le week-end suivant. Donc on voulait garder cette place-là. C'est important aussi dans le monde de la BD, les repères sur les week-ends. Ce sera donc le 1er et le 2 juillet. Voilà, avec, comme d'habitude, une trentaine d'auteurs. Cette année, c'est Jacques Terpin qui a accepté de nous signer l'affiche. Elle est assez exceptionnelle, une fois encore. Hein. Chaque fois que les auteurs acceptent de faire une affiche, on est toujours, nous, scotchés par l'engagement qu'ils y mettent. Donc, celle de Jacques Terpin ne fait pas défaut. Et puis, il a drainé avec lui 4-5 copains, comme ils font tous. Quoi. Voilà. Et donc, ça fait, je pense, ça fera encore une belle affiche.
Ouais. Et vous avez déjà quelques noms de dessinateurs prévus ?
Oui, bien sûr. Bon, donc Jacques sera là. Il draine avec lui André Houot, Jocelyne Charance. On a Gilles Maisomont qui est arrivé avec des nouveautés. On a Florence Magnien qui sera au rendez-vous, bien sûr, avec sa dimension héroïque fantasy. Voilà, bon, je cite quelques-uns, mais ouais. La liste est un peu plus longue, bien sûr.
On en reparlera de toute façon. Alors, une petite question d'ordre politique. À Angoulême, l'expo de Damien Vivès a été déprogrammée. La raison invoquée, c'est qu'il a été accusé de faire de la diffusion d'images pédopornographiques dans son travail. Quel est ton avis là-dessus, si tant est que t'en aies un ?
Oui, avis, je ne sais pas, mais le monde de la BD reste encore, à l'intérieur du monde de l'édition, un monde de libre. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est un monde de libre expression où chacun peut traiter le sujet qui le passionne ou qui l'intéresse, le traiter avec son regard. On a un exemple intéressant, c'est la revue Dessinée, hein, qui est un très bel outil d'information, mais qui, à partir d'une même information, peut être traité sous différents angles, graphiques ou documentaires. Et je crois que dans cette veine-là, chacun a le droit, du coup, de s'exprimer avec sa façon d'être, sa vision des choses. Alors, ça peut choquer. c'est certain, parce qu'il y a des limites qui peuvent aussi, qui doivent ne pas être dépassées, bien sûr, mais chacun est libre de consulter ou de ne pas consulter. C'est pas comme une image audiovisuelle qui est matraquée dans une télévision ou un message radio qui est répété. Là, c'est quand même un acte volontaire. Quand on va vers un livre, quand on va vers une BD, donc la liberté de l'auteur se doit d'être respectée de toute façon. Quoi.
Comment vous choisissez les artistes qui viennent au festival?
Ah, c'est une c'est une belle c'est une belle gageure, parce qu'en fait on est à la fois dans une continuité. Ça c'est important, on a quand même un certain nombre d'auteurs avec qui on a des relations privilégiées, on a aussi la nécessité de faire en sorte que les gens qui nous fréquentent régulièrement trouvent de la nouveauté, donc deuxième clé. Troisième clé, c'est important pour nous aussi de répondre aux différents genres qui sont aujourd'hui présents. Donc depuis 2020, on a mis en place trois espaces, hein, un espace BD, un espace jeunesse et un espace manga. Donc ça aussi, c'est une clé importante. Et donc quand on a posé ces trois clés, les anciens, les nouveaux et puis les différents genres, ensuite, il y a beaucoup de travail de cooptage en fait. C'est un monde où les gens se connaissent beaucoup, où les gens se parlent et où les gens se recommandent. Et donc du coup, Saint-Élémy a gardé et garde toujours pour le moment cette image d'un lieu convivial, d'un lieu qui arrive en début d'été où on va se faire plaisir, où on va être un peu entre potes, où on a un public sympa avec qui on prend du temps. Les dédicaces chez nous sont toujours très soignées, les gens sont très surpris du fait qu'un auteur, un illustrateur est capable de perdre ou de prendre,
ouais, de prendre, ouais.
Voilà, demi-heure, voire trois quarts d'heure pour échanger, dessiner, mettre en couleur, etc. Et ça, c'est ce qui fait aussi un peu la force du recrutement autour d'Enemy BD. Quoi.
Et c'est aussi parce que pour les auteurs, autrices, c'est quelque chose d'important en fait, de venir dans des salons comme ça. On en avait parlé d'ailleurs avec Val, que pour eux, s'il n'y a pas ces salons et la rencontre avec le public, c'est compliqué de vendre, tout simplement.
Alors, pour un certain nombre d'auteurs, effectivement, qui ne sont pas dans les grands circuits, ouais, de distribution, c'est essentiel que le réseau des festivals continue à les mettre en valeur. Et ça, c'est une de nos missions. Hein. Nous, on a toujours travaillé dans ce sens-là, pour les auteurs locaux, pour les auteurs régionaux, mais aussi pour des petits auteurs ou des éditeurs de dimensions plus alternatives qui trouvent là une valorisation. Donc ça, c'est essentiel. Après, c'est aussi, pour les auteurs, un temps de rencontre entre eux. Je vais dire un temps social, parce qu'en fait, c'est un métier très solitaire. On est face à sa planche, on est face à ses angoisses, on est face à l'éditeur qui pousse parce qu'il faut sortir les planches plus vite que prévu. Et cette pression, à un moment, il faut qu'elle se lâche. Et les festivals, ça